On prend la suite, mais il faut un petit peu oublier ce qu'on a entendu sur les expériences en Extrême-Orient et au Levant, parce qu'en Afrique, en tout cas occidentale française, la situation de la gendarmerie à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale est totalement différente. Je vais revenir un tout petit peu avant l'année 56, puisque on trouve le premier poste de gendarmerie en Mauritanie. J'en ai trouvé en tout cas la trace seulement à partir de 1944. Avant cela, existe une brigade à Saint-Louis. À Saint-Louis, qui est capitale partagée de la colonie du Sénégal et de la colonie de la Mauritanie. Mais évidemment, cette brigade de gendarmerie de Saint-Louis dépend de la gendarmerie du Sénégal. Ce n'est qu'en 1948 qu'est créée la section de gendarmerie de Mauritanie, qui rend directement compte à l'adjoint gendarmerie du commandement supérieur de Dakar, qui chapeaute toute l'Afrique occidentale française. Quant à l'année 1961, pourquoi pas 1960, date de l'indépendance mauritanienne, eh bien c'est seulement en 1961 qu'on dissout le groupement de gendarmerie de Mauritanie, qui, suite aux opérations de transfert, laisse la place à la gendarmerie nationale mauritanienne, mais aussi, et c'est une spécificité importante, à la garde nationale. Et on crée à ce moment-là la section gendarmerie du bureau d'aide militaire aux forces armées de la République islamique de Mauritanie. Alors j'ai essentiellement utilisé pour cette communication des sources issues du fonds gendarmerie du SHD, dans lesquelles j'ai particulièrement retenu les rapports sur l'état d'esprit du personnel, hein, qui sont rédigés par les chefs de brigade et les chefs de section. Il s'agit donc d'une vision essentiellement produite par l'institution, n'est-ce pas, mais qui laisse beaucoup à voir des hommes, en tout cas des cadres français qui ont servi dans la gendarmerie coloniale. Alors, je vais aborder essentiellement deux thèmes qui m'ont paru les plus significatifs à travers l'étude de ces papiers. D'abord, la coexistence des éléments de gendarmerie avec les corps de troupes, à travers les missions des gendarmes et l'implantation progressive des brigades dans ce territoire qui est bien sûr fortement contrôlé, en tout cas sur lequel se déploient de nombreuses troupes coloniales, notamment sahariennes, dans les deux tiers supérieurs du territoire. Et puis deuxième point, je reviendrai sur les unités dites indigènes et leur évolution à travers les transformations politiques de la fin des années 50, parce que c'est une autre des spécificités de la région. Alors, juste quelques petits points. Ah, vous n'entendez pas. Pardon. Il faut juste revenir sur trois éléments importants concernant la Mauritanie. Donc, c'est un pays qui est fortement marqué par ce qu'on pourrait appeler la bipolarité de sa population. Une population noire qui est installée le long des fleuves, le long du fleuve Sénégal, et puis une population qu'on appelle Maure, donc qui est évidemment la plus importante en nombre dans les deux tiers nord du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, deuxième point important, donc les troupes coloniales de Mauritanie, en particulier les unités méharistes du Sahara, qui jouissent d'une aura, d'une certaine façon, qui perdure depuis la conquête, conquête extrêmement tardive dans cette zone saharienne, puisque la liaison entre les troupes du Maroc, d'Algérie et de Mauritanie s'effectue seulement en 1934. Enfin, cette importance des zones nord est renforcée à la période coloniale tardive par la situation politico-militaire tendue entre Maroc, Sahara espagnol et Mauritanie. J'y reviendrai pas, c'est juste pour dire que cela accroît fortement les besoins de défense dans cette zone entre 1956 et 1961. Alors, que fait la gendarmerie en Mauritanie? D'abord, j'aimerais noter que le gendarme en Mauritanie, premièrement, est très seul. Deuxièmement, il ploie littéralement sous la tâche à accomplir, puisqu'il est très seul et que ses tâches, on va le voir, sont très nombreuses. Troisièmement, il est démuni, il manque de tout. Parfois, il demande des choses plusieurs années consécutives, donc on peut imaginer qu'il n'a pas eu de réponse à ses besoins. Mais, curieusement, il n'est presque jamais découragé, ce qui est assez frappant. Parmi les tâches multiples de ces gendarmes, de ces premiers gendarmes, donc évidemment on retrouve les tâches de police administrative et judiciaire, de police économique avec la contrôle de la traite de la gomme, la gestion des places d'armes, beaucoup, beaucoup la création des nouveaux postes, bien sûr, les casernements, etc. Et puis plus on avance dans le temps, plus on retrouve les missions un petit peu plus conventionnelles, entre guillemets, le maintien de l'ordre pendant les élections, la protection des chantiers de la société Miferma qui exploite les gisements de fer à la Queue d'Adigil, à Fort Gouraud. La sécurité lors de visites de personnalités, bien sûr, et aussi dans les brigades de la frontière nord, essentiellement, beaucoup de missions de renseignement. Et puis, tout d'abord, il faut parler de la formation et de l'encadrement des auxiliaires et des gardes-cercles de Mauritanie, puisque c'est une des missions principales des premiers gendarmes coloniaux. Sur ce territoire, il existe deux types de recrues. D'un côté, les gardes-cercles et les gardes méharistes morts. C'est un corps qui est né dès 1912 et qui deviendra, après la loi 4 de 56, les gardes territoriaux. Mais à côté de ces gardes-cercles, il y a aussi des auxiliaires de gendarmerie. Donc les gendarmes français ont une grande tâche dans l'instruction élémentaire et l'instruction technique. Bien sûr, on imagine que jusqu'à une période tardive, on n'a pas du tout les mêmes moyens que, par exemple, ceux qui ont été exposés pour l'Indochine, pour le Vietnam, etc. D'autre part, ces gendarmes, chefs de poste, de brigade ou de section, cumulent très souvent des fonctions, d'autres fonctions, celles de commissaire de police en particulier, celles d'huissier, parfois même celles de chef de subdivision lorsque le poste est laissé vacant. Ou encore responsable des GOUM, qui sont ces unités militaires montées à chameau. Alors, un mot sur les conditions du service et du statut des gendarmes. D'emblée, donc le centre des activités de la gendarmerie est fixé à Rosso. Ah, il n'y a pas Rosso. Désolée. Voilà, à une centaine de kilomètres de Saint-Louis. Ce qui crée déjà un enclavement particulier, déjà beaucoup plus isolé et moins bien ravitaillé. Donc tout est extrêmement compliqué. Se loger, se nourrir, se vêtir. Et plus on progresse vers les zones désertiques, évidemment, plus c'est compliqué. Les rapports montrent aussi que le statut des gendarmes en Mauritanie reste, des gendarmes coloniaux, reste défavorable pour les officiers et les sous-officiers. Les uns par rapport aux conditions dans l'administration au même niveau d'ancienneté, et les autres parce qu'ils sont défavorisés dans les conditions d'avancement, et aussi parce que leur indemnité de résidence, curieusement, baisse alors qu'ils servent dans des zones très reculées. Alors que, bien sûr, tout est beaucoup plus cher dans les zones reculées. Alors, sur la question du rapport avec les troupes coloniales, lorsque la section de gendarmerie est créée en Mauritanie, comme je l'ai dit, les troupes sahariennes sont très implantées dans le nord du pays, connaissent très bien les populations locales. Alors, je pense que ça peut expliquer en partie la lente progression de la gendarmerie, longtemps cantonnée à la région du fleuve. Hein. Alors, si les missions théoriquement ne sont pas les mêmes, les officiers des régions du Nord ont tendance à cumuler les rôles et les fonctions. Nombreux sont les commandants qui peinent à faire une place aux gendarmes. De plus, les brigades de gendarmerie, venues essentiellement pour des missions de renseignement dans ces zones frontalières, ont évidemment nettement moins de moyens que ceux pour le renseignement militaire. Donc ils font guère le poids face à leurs collègues des troupes de l'infanterie coloniale. Je voudrais citer le rapport du capitaine Oumer qui commande la section en décembre 1956. Alors voilà une photo de garde méhariste mort en 1955. Alors ce capitaine Oumer écrit « Au cours de l'année, donc 56, l'aggravation de la situation dans le sud marocain a nécessité la création rapide de postes dans la zone des confins. L'installation de ces unités est rudimentaire, leur liberté d'action limitée, les conditions de vie en commun avec les éléments de corps de troupes souvent pénibles. En Adrar, où l'empire de l'autorité militaire s'affirme, les rapports ne sont pas bons. Les officiers des corps de troupes ont trop tendance à considérer le personnel de l'arme au même titre que les sous-officiers de l'infanterie coloniale. Des mises au point ont été rendues nécessaires. Il faut préciser ici que ce rapport est tout en retenue. Dans certains cas, la mésentente a conduit à des situations presque dramatiques pour les gendarmes français. Alors, j'en arrive aux unités indigènes. Un rapport de 1948 expose d'emblée le principe de l'organisation des gardes-cercles en Mauritanie. Je cite, « Les gardes-cercles de Mauritanie comprennent actuellement deux formations distinctes, les gardes méharistes morts et les gardes-cercles noirs. L'état d'esprit et le moral des gardes-cercles noirs du dépôt est assez bon dans l'ensemble. Anciens militaires, ils se plient volontiers à la discipline. » En ce qui concerne les gardes méharistes morts, leur manière de servir est bonne, mais ces éléments sont plus difficilement pénétrables, comprenant à peine le français, et ont un préjugé de race qui s'est fortifié au contact de l'européen. Bien sûr, il faut savoir que ce terme d'européen est utilisé dans toutes les archives coloniales pour désigner en fait les Français. Donc on lit à travers cet extrait, apparaît d'emblée ici ce qui explique l'essentiel de l'organisation militaire et gendarmique en Mauritanie, à savoir un double système, un qui concerne les recrues noires donc, et un qui concerne les recrues morts. Alors, aux côtés des officiers et sous-officiers de gendarmerie, il y a surtout, bien sûr, les auxiliaires de gendarmerie. Également, dans un premier temps, uniquement des recrues issues donc des régions sud et même de l'ensemble de l'Afrique occidentale française. À partir de 1954, on commence à recruter des auxiliaires morts, évidemment, à mesure qu'on va développer des brigades dans le nord du pays. Alors, bien sûr, les efforts pour l'instruction de ces auxiliaires sont complexes et longs, d'autant que les cadres ont mille autres choses à faire. Pour exemple, souvent, les élèves auxiliaires n'ont droit qu'à un tir, qu'à une expérience de tir par an pour se former à l'usage des armes. On peut imaginer que c'est un peu court. Sur le plan du statut, toutefois, il apparaît que les auxiliaires bénéficient d'un traitement plus favorable que leurs équivalents dans l'administration, chose qui ne manque bien sûr pas de leur être répétée par les cadres pour rehausser leur morale. Alors, après la loi cadre de 1956 et la création des conseils de gouvernement, qui préfigurent bien sûr les futurs États indépendants, la question de l'emploi des forces pour le maintien de l'ordre se pose avec beaucoup d'acuité. À la direction des affaires politiques du ministère de la France d'Outre-mer, on discute à ce moment-là d'une réorganisation de la gendarmerie en fonction des nouvelles institutions. Le but est bien sûr de faire dépendre directement de l'État métropolitain et non des budgets locaux, donc des assemblées territoriales, donc des élites locales, surtout pas, le plus grand nombre possible de forces de maintien de l'ordre. Ainsi, on imagine d'intégrer un maximum de gardes territoriaux, donc ces anciens gardes-cercles, dans les auxiliaires de gendarmerie, en alignant leurs conditions salariales et en évitant ainsi le maximum les mouvements syndicaux et politiques qui commencent à naître en leur sein. L'étape suivante advient très rapidement après la mise en place de la communauté et la constitution de 1958 et à la suite des décisions présidentielles de février 59 qui prévoient la possibilité de mise pour emploi à la disposition d'un chef de gouvernement des États de la communauté des éléments de gendarmerie pour le maintien de l'ordre public. Donc en avril est signé un accord provisoire sur les conditions d'emploi des forces armées entre le représentant du président de la communauté et le futur président mauritanien. Je peux malheureusement pas trop m'apesantir. On est déjà en 59 dans les premières expériences de nationalisation des unités de gendarmerie en Mauritanie. Donc c'est cette année que les premières unités de garde méhariste vont être formées avec la naissance de la garde nationale mauritanienne. Alors, nationalisation, c'est au sens de unité dépendant directement du gouvernement mauritanien, puisque bien sûr les cadres restent dans leur immense majorité des gendarmes français. En 59, il n'existe qu'un seul sous-officier gendarme mauritanien, qui est donc le premier expérimentant le cadre d'outre-mer hein, pour la gendarmerie. Et c'est seulement en 61 qu'on enverra 8 nouveaux élèves auxiliaires pour se former, pour devenir des cadres. Donc on peut imaginer les grosses difficultés d'encadrement qui seront relevées premières unités hein, nationalisées. Tant par d'ailleurs les gendarmes français que par les premiers cadres mauritaniens qui seront responsables de commandement. Et ça, notamment, j'ai pu le relever dans des unités mobiles, des pelotons mobiles montés à chameau aussi, à Nouakchott, donc qui sera future capitale, et à Bassikounou dans l'ouest du pays. J'en arrive donc au transfert. Le groupement de gendarmerie donc coloniale de Mauritanie est finalement dissous le 6 novembre 1961 et laisse place à la gendarmerie d'État et à la garde nationale. Donc tous les sous-officiers mauritaniens auxiliaires et gardes auxiliaires sont transférés à la République islamique de Mauritanie à cette date. On crée donc la section gendarmerie du bureau d'aide militaire aux forces armées de la Mauritanie. Et aussi, on crée des brigades prévôtales à Port-Étienne, à la frontière, l'extrême ouest de la frontière avec le Sahara occidental, à Port-Étienne, à Attar, Fort Gouraud et Fort Trinqué. Donc, pour conclure, il faut donc noter dans cet exemple, premier exemple africain de la journée, je ne m'étends pas plus parce que je sais que les collègues vont développer après. En tout cas, il faut noter pour la Mauritanie une implantation très tardive en comparaison d'autres gendarmeries coloniales. Pour autant, elle paraît confrontée exactement au même type de difficultés. On peut ainsi se demander pourquoi ces unités parmi les plus tardives de l'Empire n'ont pas bénéficié des enseignements d'expériences gendarmiques précédentes. Notez aussi donc des missions et une organisation montrant de fortes disparités dans le service entre les brigades du Sud et celles sahariennes. Une cohabitation évidemment très souvent difficile avec l'infanterie coloniale. L'organisation successive de plusieurs types d'unités indigènes, alors Camille Salé va y revenir plus en détail je pense, donc qui est vraiment une spécificité africaine. Et puis la question du maintien de l'ordre, très importante dans l'évolution politique des territoires, au fur et à mesure du glissement des prérogatives dans les mains des gouvernements locaux. Voilà, pour finir, je voudrais juste vous lire un extrait d'une note du chef de la section gendarmerie du bureau d'aide militaire de l'armée mauritanienne. Donc c'est le chef d'escadron Martin qui écrit en mars 1963, vraisemblablement suite à des tensions dans les unités qui n'ont pas encore à cette date d'encadrement mauritanien. Je cite, « Vous n'êtes pas là pour faire des numéros. » Il s'adresse évidemment à ces gendarmes de l'aide militaire technique. « Vous n'êtes pas là pour faire des numéros. Vous êtes là pour instruire techniquement et moralement. » Cela exige des qualités de patience et la ferme volonté d'aboutir malgré les difficultés de tous ordres rencontrés. C'est un rôle difficile, mais en venant volontaire dans ce pays, vous êtes venu pour servir. Et servir ici, c'est savoir s'adapter aux circonstances, aux coutumes, à l'état d'esprit de la population, sans pour autant renoncer à vos sentiments d'honneur et de l'honnêteté, qui, doublés d'une conscience professionnelle exemplaire, ont toujours fait le renom de notre arme. Merci beaucoup.